Salut tout le monde, j'ai eu l'occasion de jouer à Zelda Tears of the Kingdom et je vais pouvoir vous en parler, c'est parti! Alors pour commencer, on va remettre le jeu dans son contexte, ensuite dans une deuxième partie, je vais vous parler de ce que j'ai eu l'occasion de jouer en fait et de ce qui a été montré dans la session preview, et enfin je vais vous donner mon avis sur tout ça et vous dire ce que j'en ai pensé. Ce sera évidemment chapitré sur YouTube, et on commence tout de suite. Ce nouveau jeu Zelda sortira le 12 mai sur Nintendo Switch, c'est la suite directe de Breath of the Wild. Alors juste un petit mot là-dessus parce que je pense que c'est important. Historiquement, la saga Zelda avait une structure qui est facilement reconnaissable. En gros, un monde que l'on allait pouvoir explorer petit à petit en récupérant des objets, des armes, choses que l'on peut trouver dans des donjons, donjons qu'on va explorer dans un certain ordre, même s'il y a des fois un petit peu de liberté possible, quelque chose d'assez structuré, balisé dans son level design, chose qui a complètement balayé Nintendo avec Breath of the Wild, qui était là pour proposer une nouvelle formule, une nouvelle vision de game design, essentiellement centrée sur le sentiment de liberté et l'utilisation de la physique dans son gameplay. Alors on va pas refaire le tableau complet point par point parce que ce serait vraiment trop long, mais juste en quelques mots, l'idée de la physique dans le gameplay c'est quelque chose que l'on ressent de deux façons, déjà au niveau des contrôles, avec des pouvoirs qui vont nous permettre de faire de la télékinésie par exemple, ou simplement bloquer un objet pour le taper, et ensuite lui donner une vélocité, une direction, des choses qui sont très exploitées dans les speedruns et pour le coup assez rigolotes, mais aussi dans l'environnement, c'est-à-dire que la température va avoir un rôle, l'escalade évidemment sera quelque chose de central, on va aussi avoir tout ce qui concerne des petites astuces marrantes comme le fait d'enlever le métal que l'on a sur soi pour ne pas prendre la foudre. C'est un jeu qui regorge d'idées dans son level design, et d'ailleurs là où il s'est vraiment illustré, c'est dans toute la richesse que l'on peut sortir de ce gameplay, qui permet de résoudre les énigmes de plein de façons différentes. Ce qui va renforcer ce sentiment d'aventure personnalisée, une aventure sur mesure, c'est notre aventure, et ça, on le vit évidemment instantanément dès lors que l'on comprend que l'on peut aller où l'on veut, et donc tout l'itinéraire que l'on empruntera sera notre itinéraire et pas forcément celui du voisin ou de la voisine. Bref, c'est un jeu qui a fait plein de belles choses, qui a été très largement récompensé pour ça, et donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est que reste-t-il à sa suite pour pouvoir encore nous surprendre ? Et je dois bien avouer que j'ai été très surpris. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir commencer à distinguer les deux jeux parce que oui, il y a un tronc commun, le sentiment de liberté au cœur de l'expérience de jeu et la gestion de la physique en mécanique principale de gameplay, mais chaque jeu a son thème avec une philosophie derrière. Alors si on devait résumer le premier en un mot, j'aurais dit le contrôle des objets, le fait de leur donner une position, une vélocité, une direction, avec des puzzles qui nous demandent de placer des objets dans des endroits précis ou de les amener d'un point A à un point B, une appréhension globale de la physique de l'aventure. Et le deuxième, a priori, aura pour thème la combinaison d'objets pour leur donner de nouveaux effets, de nouvelles propriétés, mais aussi la combinaison d'objets que l'on va retrouver sur le sol, des choses spécifiques à ce jeu pour créer notamment des structures, des véhicules, quelque chose d'extrêmement riche et encore une fois d'extrêmement personnalisable, des systèmes que j'ai pu tester et donc je vais pouvoir vous en parler un peu plus dans le détail. Pour commencer, on va parler des pouvoirs de Link que j'ai pu découvrir au travers de cette démo. Il y en avait 4. En premier, on retrouve le stick qui permet d'utiliser la télékinésie pour accrocher des objets entre eux. En second, on retrouve le mix qui permet de combiner son arme ou son bouclier avec un élément au sol. Ça va être un objet que l'on peut poser nous-mêmes ou quelque chose qui est déjà sur le terrain, que peuvent laisser tomber les ennemis par exemple. En troisième, une sorte de rewind qui permet de ramener un objet à une position antérieure, c'est quelque chose de très amusant, d'assez impressionnant en plus, très drôle dans les combats. Et enfin, quelque chose qui est intimement lié à l'exploration et à la verticalité que propose le level design de ce jeu, l'ascension. C'est très visuel et bizarrement assez dur à expliquer, mais en gros vous vous téléportez au niveau du sol qu'il y a au-dessus de votre tête. Par exemple, si on est dans une grotte, on fait l'ascension et on se retrouve à la surface pile poil au-dessus de l'endroit où on était. Ça va être évidemment très pratique pour aller rapidement en hauteur, et on imagine très bien le genre de mindfuck que l'on pourra retrouver dans le jeu, bref, on verra ça. La séquence de jeu à laquelle on a joué était composée en deux phases. Dans un premier temps, on a pu tester le gameplay, éprouver tous les systèmes que je viens d'évoquer, et ensuite on a pu les mettre en application avec un objectif, rejoindre une tour et puis un parcours en fait d'île en île, qui nous permettait de résoudre quelques puzzles et de voir un petit peu ce qu'il était possible de faire, de mettre en application finalement ce qu'on avait appris. Et évidemment, c'était aussi l'occasion d'apprécier le travail abattu sur la direction artistique et la technique. Alors tout ça est un peu touchy parce que très subjectif, chacun et chacune a sa perception. Ce que je peux vous dire, c'est que visuellement, ça m'a quand même semblé très inspiré. Avec des panoramas rafraîchissants, le côté aérien du jeu lui fait un bien fou. Visuellement, c'est toujours aussi efficace, que ce soit dans le chara-design et dans les codes de l'univers. Des codes qui sont finalement très clairs et très facilement distinctifs d'autres jeux. On a une vraie identité, en fait, dans cette aventure, et ça, c'est quelque chose qui, selon moi, en fait, est un peu la marque des choses qui fonctionnent. Après, on aime pas, ça regarde chacun et chacune. Dernier truc, je pensais pas du tout que le jeu serait aussi fluide. Alors certes, on est sur Nintendo Switch, donc une résolution relativement basse, et pas forcément du 60 images secondes, évidemment, mais ceci dit, ça marche quand même très bien, quoi. C'est-à-dire que là, durant cette session, en tout cas, je n'ai pas été embêté par quoi que ce soit, l'expérience était fluide, et donc, bah, du coup, très agréable. Alors maintenant, on va aller un peu plus dans le détail, j'ai pris pas mal de notes, donc je vais essayer de vous restituer tout ça au mieux. Par contre, je vous préviens, ça risque d'être assez dense. Pour commencer, on va parler du mix. Donc ce que j'appelle le mix, c'est cette possibilité d'associer un objet, un élément à une arme, un bouclier ou une flèche. Ça présente deux avantages. Premier point évident, donc on va aller assez vite, les statistiques. Quand vous combinez un objet à une arme, vous allez pouvoir monter son potentiel d'attaque. Typiquement, bah, si vous prenez un bâton basique et que vous lui associez une sorte de trident qui est en fait une corne que vous récupérez sur un ennemi, vous allez derrière pouvoir taper plus fort et en plus votre arme durera plus longtemps. Le truc selon moi qui est le plus important et qui peut être assez exceptionnel, c'est que vous allez pouvoir conférer à vos objets de nouvelles propriétés. Alors le truc basique c'est la flèche avec laquelle on pourra utiliser des objets pour en faire des flèches de feu, des flèches de glace, des flèches de lumière pour éclairer dans les caves. Mais le plus important, c'est que vous allez pouvoir aussi débloquer du gameplay avec tout ça. Par exemple, il sera possible d'utiliser une sorte de roquette sur un bouclier pour pouvoir vous projeter dans les airs et accéder à des endroits qui de base étaient inaccessibles. Si vous avez un bâton et que vous voyez une pierre, vous allez pouvoir créer une sorte de marteau qui permettra de casser des murs en pierre pour pouvoir aller dans des passages secrets. Si vous avez au contraire une pierre qui sera plutôt plane, vous allez avoir du tranchant et donc vous allez pouvoir commencer à couper des arbres. Et je rappelle au passage que dans ce jeu, le feu va pouvoir créer des courants d'ascension, et c'est donc aussi quelque chose que vous allez pouvoir utiliser avec la paravoile qui permet de planer pour vous hisser dans les airs. En gros, ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que ces combinaisons vont avoir un vrai intérêt dans les combats, pour réaliser des attaques spécifiques, pour pouvoir vous défendre de manière créative, pour pouvoir jouer aussi sur certaines faiblesses spécifiques des adversaires. Mais au-delà de tout ça, vous avez évidemment une composante secret et puzzle dans le jeu qui vous demande d'expérimenter ce système qui s'annonce extrêmement riche. Honnêtement, j'ai été tellement bluffé de voir qu'en une heure de jeu, on ait pu tester déjà tant de choses et ça avait l'air d'être une sorte de petite poussière au milieu de tout ce qu'il y aura dans le jeu, quoi. Donc vraiment un travail super intéressant là-dessus puisque ça concerne à la fois la partie action et exploration et tout ça de manière extrêmement naturelle en fait. Et on arrive au moment parfait pour que je vous parle des objets Zonai. Les objets Zonai, ce sont des objets spéciaux que l'on pourra récupérer dans le jeu qui sont alimentés en énergie. Ça va être une hélice, une aile, un rocket. Et le truc qui est intéressant, c'est que oui, ces objets vont servir à la conception de véhicules, et j'y reviens dans un instant, mais vous pouvez aussi les utiliser avec votre équipement. Et encore une fois, on imagine tout ce qu'il sera possible de faire avec ça en matière de plateforme et de combat. Et maintenant, on va aborder la question d'un autre grand axe de gameplay de ce nouveau Zelda, c'est le fait de pouvoir fixer les objets entre eux. Donc avec la télékinésie, on les attrape, et derrière on pourra les faire tourner, les placer et les fixer les uns aux autres. On a eu quelques exemples dans les trailers que j'ai pu tester, le fait de faire un radeau avec plusieurs troncs auxquels on peut accrocher des hélices qui vont nous permettre d'avancer vers l'avant. J'en profite d'ailleurs pour vous parler de l'énergie dans le jeu. Donc l'énergie en gros c'est une espèce de ressource interne à Link que l'on peut avoir aussi sous forme de batterie dans le jeu. Et le principe du truc c'est que quand vous activez un objet Zonai comme une hélice par exemple, eh bien ça va activer tous ceux du véhicule en même temps et ça va consommer de l'énergie. Donc de base, Link en a une certaine quantité, et ce qu'on imagine tout à fait, c'est que ça soit lié à la progression, et donc bah, plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez récupérer très certainement de l'énergie, et donc derrière, vous serez capable d'utiliser vos véhicules de plus en plus longtemps. Donc par exemple, si on devait faire juste une petite situation, on peut imaginer qu'il y a des choses qui sont très très loin en distance au niveau des zones aériennes, et tant que tu n'as pas une certaine quantité d'énergie, tu ne pourras pas y aller, parce que ton véhicule au bout d'un moment va s'arrêter et donc tomber. Voilà, ça peut être un des exemples d'utilisation de tout ça. Ce qui est super intéressant avec ce système, c'est qu'on a de suite une sorte de petit vertige où on commence à penser à tout ce qu'il est possible de faire, et effectivement, chaque puzzle qu'on a pu découvrir était faisable de plein de manières différentes, notamment par la flexibilité que propose tout ça. Et petit point game design, parce que je suis obligé de saluer le travail tellement il est brillant, il y a un vrai taf de fait pour rendre tout ça confortable d'utilisation. En fait, une de mes grosses inquiétudes quand je voyais les trailers, c'était tout ce qu'il y avait à faire en matière de précision. Par exemple, si vous voulez faire un véhicule aérien qui soit équilibré pour qu'il ne penche pas d'un côté ou de l'autre, comment est-ce qu'on respecte la symétrie? Comment sont gérées les masses? Comment est gérée la construction, basiquement? Est-ce que c'est quelque chose qui est pénible ou non? Et là arrive une idée qui est évidente quand on l'explicite, mais qu'il fallait quand même penser quand on est face à la feuille blanche, c'est la gestion de la glue. C'est-à-dire que quand vous avez deux objets qui se fixent entre eux, et donc avant que ça se fixe, quand ça se rapproche, vous voyez le point d'ancrage. Et on remarque une chose, c'est que sur chaque modèle 3D du jeu, imaginez le taf, sur chaque modèle 3D du jeu, il y a plein de points d'ancrage qui ont été préétablis mais qui sont invisibles et qu'on comprend en fait en matière de code, si vous voulez, quand on voit le truc en fonction. Et si vous voulez, ce que ça permet de faire, c'est des points à plein d'endroits de chaque modèle 3D, mais qu'il est possible de retrouver. Donc par exemple, si vous prenez l'aile, eh bien vous voyez à un moment que c'est pile poil le point qui vous intéressait et vous retrouvez très facilement l'autre du même côté. Et donc tout ça est relativement invisible et pourtant extrêmement naturel. Et en plus de ça, vu que la manipulation se fait facilement, ok, ça va prendre un petit peu de temps de construire les choses que l'on veut, mais par contre, derrière, bah, vous avez au moins exactement le résultat attendu, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres jeux du même genre. Donc vraiment, c'était super intéressant de voir justement tout ce taf d'ergonomie et qui, pour le coup, a dû un petit peu leur casser le cerveau. Bon, sans doute quand même moins que toute la gestion de la physique et tout ce qui suit derrière, mais c'était quand même déjà une belle prouesse et je voulais quand même en parler ici. Et on va terminer avec un autre point extrêmement important, la réponse à ce gameplay, c'est-à-dire le level design. Alors malheureusement, je peux pas vous montrer grand-chose dans cette vidéo, mais ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue des puzzles qui sont proposés, tout ce que je viens de vous présenter n'est pas un gadget, d'accord? C'est pas on se balade en créant des véhicules tels qu'on les a vus dans les trailers et derrière, bah, on joue à Zelda comme on a déjà joué. En fait, non, c'est-à-dire que les puzzles utilisent toutes ces possibilités-là pour être résolues. Et là, bah, on arrive sur un point qui, je pense, va un peu diviser, c'est-à-dire que d'un côté, c'est très ingénieux, c'est très inventif, on a vraiment envie de créer des choses et de tester un peu ses idées. Par contre, derrière, bah, c'est vrai que la progression sera sans doute un peu plus lente, voire beaucoup plus lente, parce qu'il faut le temps de construire, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, ne conviendra pas forcément aux impatients. J'y reviendrai en conclusion, évidemment, lorsque je vous parlerai de mes impressions. Par contre, ce que je peux vous dire qui risque peut-être de vous parler, notamment si vous avez joué à des jeux comme Outer Wild, c'est potentiellement la philosophie qu'il y aura derrière le titre. Alors, je m'avance peut-être un peu, mais je flaire quelque chose. À mon avis, encore plus que dans le premier jeu, on est dans ce que les gens commencent à appeler, vous savez, les Knowledgevania, c'est-à-dire des jeux dans lesquels le savoir, c'est le pouvoir. Je m'explique, plus on joue au jeu, plus on comprend le jeu. À force d'expérimentation, on élargit sa propre palette de ce qu'il est possible de faire ou non dans le jeu. Et donc, bah, typiquement, vous savez, ce genre de situation où vous voyez un coffre, vous savez pas comment on fait pour le choper, et puis vous continuez à jouer, et là vous comprenez que bah, si on utilise la glace avec telle flèche et qu'on fait tel machin, ah oui, du coup, en fait, cette combinaison, elle sert à ça, et là vous repensez à ce coffre que vous avez laissé de côté, et vous allez pouvoir aller le chercher. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui est visé ici par les équipes de Aonuma, c'est-à-dire un level design dans lequel, encore une fois, on a énormément des possibilités du jeu qui sont disponibles dès le départ, et il faudra découvrir l'univers du jeu pour le comprendre. Et d'ailleurs, c'est un peu subtil, mais dans tout ce que je viens de vous montrer, on voit un peu les traces de ce que peuvent être des tutos environnementaux, c'est-à-dire le décor qui t'explique comment faire certaines choses, ou même des PNJ. Par exemple, un PNJ ennemi qui va mixer le missile avec des flèches, et comme ça on comprend qu'on peut faire nous aussi ce mélange. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on va retrouver énormément dans l'aventure, autant que tous ces éléments qui font que le décor se raconte un petit peu. Et bon, bah voilà, on va dire que là, c'est de l'ordre de la confiance ou non, mais ce qui est sûr, c'est que le premier jeu faisait ça très bien. Je suis tellement impatient de voir à quel point ce titre-là pourra avoir un retentissement, et je pense que c'est la transition parfaite pour vous partager un peu mes impressions. Bon, il n'y a pas de suspense, donc on va le dire tout de suite. Je suis très emballé par ce à quoi j'ai joué, et très sincèrement, je reviens de si loin. J'étais pas plus chaud que ça pour ce Zelda. En gros, quand j'ai vu le tout premier trailer, je me suis dit, bah ça y est, c'est la suite d'un de mes jeux préférés, c'est parfait. Avec en plus une nouvelle proposition en termes d'ambiance, parce que la musique, parce que tout ce qui était montré avait ce côté un peu bizarre, un peu différent, et ça me donnait tellement, tellement envie. Et puis là, j'ai vu les véhicules et la construction, et j'ai déchanté, quoi. Vraiment, ça m'a refroidi direct, parce que je me suis dit, mais pourquoi on a foutu ça dans mon Zelda? Et en même temps, j'arrivais pas à concevoir ce que ça pouvait apporter en termes de gameplay d'avoir ces éléments-là. Et puis bah là arrivent les derniers trailers, mais surtout la différence entre le fait de voir le jeu et d'y jouer. Et dès l'instant où j'ai eu l'initiative de la création, de la construction, bah là la magie a opéré en fait. C'est-à-dire que là j'ai compris vraiment la proposition, j'ai vu le level design, j'ai senti ce qui avait été proposé en matière d'expérience de jeu, même si ce fut assez court. Et la vérité c'est que bah non en fait, ouais, on est encore une fois sur un jeu qui va tout arracher quoi. Il n'y a pas d'embrouille, c'est-à-dire que là, concrètement, j'ai aucun risque à dire que on est encore une fois sur un jeu qui va très certainement faire beaucoup parler de lui, qui va très certainement avoir un impact extrêmement fort sur l'industrie, notamment du côté des jeux de construction, je pense à Scrap Mécanique et autres, mais vous savez, ces jeux de craft où là, vraiment, en termes d'ergonomie, bah voilà, il y a plein de choses à tirer de ce jeu. Et puis, bah évidemment, en termes de level design, où ça va encore beaucoup plus loin qu'à l'époque, quoi. Donc, non, vraiment, il y a moyen que ce jeu soit peut-être moins équilibré, et ça, je vais y revenir juste en conclusion, mais en tout cas, ça a au moins le mérite de taper juste là où il faut, et de faire bien ce que ça essaye de faire, du moins, en tout cas, de ce que l'on voit ici. Donc, en gros, c'est un a priori, c'est une impression, mais elle est extrêmement bonne, évidemment. Ceci étant dit, et c'est très important, je pense que comme tout jeu qui va au fond de ses idées et qui va au fond de sa démarche dans un gameplay finalement peut-être un peu atypique, eh bien, il va y avoir des gens qui seront laissés sur le carreau. Et je suis absolument certain qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'en termes de rythme, il va très certainement y avoir une différence fondamentale entre ce Zelda et le précédent, et ça, il faut que vous l'ayez en tête parce qu'il est possible que vous ne soyez pas concerné par ce jeu en termes de goût personnel. Je m'explique. De mon expérience de jeu, et ce malgré toutes ses qualités, hein, je pense qu'on est sur un jeu qui n'est pas du tout fait pour tout le monde. Alors ça va toucher du goût personnel, mais il n'empêche que bah, chaque titre essaye de viser un public, et j'ai même l'impression que le public visé ici n'est pas forcément le même que son prédécesseur. C'est-à-dire qu'on va retrouver certes le sentiment d'aventure, l'envie d'explorer, cette espèce d'appel, on va dire, de l'univers qui donne envie d'aller un peu partout et de voir tout ce qu'il y a comme secret, mais derrière, je pense quand même qu'il y a une vraie différence quant au rythme, et notamment quant au rythme de résolution des puzzles. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un exemple, et comme ça vous allez pouvoir toucher un petit peu du doigt ce que j'essaie de vous raconter. Si on prend un puzzle de Breath of the Wild typique, c'est-à-dire une sphère à bouger d'un point A à un point B. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver à déplacer votre personnage, vous allez regarder la salle, vous allez essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour résoudre le truc, et quand vous avez la solution, et que vous êtes sûr et certain d'avoir la solution, eh bien de suite, vous êtes dans l'action. Vous allez peut-être utiliser la télékinésie pour pouvoir déplacer la sphère et l'amener dans sa destination, ou peut-être que vous allez la pousser, ou peut-être que vous allez utiliser une flamme qui va faire tomber un truc et qui derrière va déplacer automatiquement la sphère, mais en tout cas, quand vous avez compris comment faire, vous y arrivez assez rapidement, et si vous vous loupez par exemple et que la sphère tombe dans le vide, bah, elle réapparaît au point de départ et vous relancez directement, encore une fois j'insiste, dans l'action. Maintenant, même type de puzzle dans Tears of the Kingdom, donc encore une fois, un objet à déplacer d'un point A à un point B, sauf que cette fois-ci, ce sont deux îles, vous avez une île, le vide et une autre île, et vous devez vous poser la question de comment est-ce qu'on fait pour aller en face. Et bah là, typiquement, une des solutions qui vient immédiatement, c'est celle de la création d'un véhicule qui va pouvoir tracter l'objet et l'amener jusqu'à sa destination, et donc bah, on commence à réfléchir, on regarde un petit peu comment est-ce qu'il faut faire, et on imagine, on pense une solution. On se dit, ah, alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer peut-être, je sais pas moi, une espèce d'avion qui va pouvoir se déplacer tout seul avec un système d'hélice et tout ça. Vous regardez ce que vous avez dans l'inventaire, vous regardez ce qu'il y a autour de vous, parce qu'il y a des objets qui sont souvent posés au sol, et vous essayez de faire le truc. Vous le construisez. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, parce que bah, les contrôles sont ce qu'ils sont quand même, c'est-à-dire que voilà, j'en ai pas trop parlé, mais c'est un jeu qui est très exigeant, je trouve, manette en main, et qui demande de vraiment comprendre tous les raccourcis, tous les machins. Bon, vous faites votre machin, derrière, vous l'accrochez, vous êtes prêt à lancer. Et là, vous croisez les doigts pour que ça fonctionne du premier coup, parce que bah, si ça marche du premier coup, c'est très bien. Mais si ça marche pas, et que le véhicule, bon, mettons, il tombe. Alors, il y a deux choix. Soit vous avez le skill, et très rapidement, vous lancez le rewind pour le ramener à sa position initiale. Mais si vraiment il tombe et que vous le rattrapez pas, bah là, faut le refaire, quoi. Donc là, on repart pour une construction, un machin. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que on est dans deux styles de jeux différents qui sont tous extrêmement intéressants. Donc, que ce soit le côté réalisation d'une action spécifique, réalisation de, voilà, de cette espèce de bonne manipulation du personnage, du contrôle, machin. Ou alors, réalisation de la machine, ce truc un peu d'ingénieur, entre guillemets, où vous allez vous retrouver à faire la bonne machine qui vraiment remplit parfaitement sa fonction. Ce sont deux plaisirs qui sont extrêmement différents et qui, à mon avis, ne s'adressent pas forcément au même public. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête, parce que ce n'est pas le cœur du jeu, d'accord? En plus, là, on a vu un échantillon d'un truc immense, donc c'est peut-être pas représentatif de tout le jeu. Mais il n'empêche que, dans 100% des puzzles, il y avait vraiment cette idée de tant qu'il y a entre le moment où tu trouves la solution et le moment où tu l'accomplis, et vraiment, je peux vous le dire intérieurement, le sentiment est extrêmement différent par rapport à ce qui s'est fait sur le prédécesseur. Donc, à vous de voir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas, mais je préfère être un peu trop, comment dire, un peu trop alarmant sur le sujet, plutôt que pas assez. Comme ça, vous savez vraiment dans quoi vous mettez les pieds, et puis au pire, vous aurez une très belle surprise. Mais il n'empêche que c'est un sujet important, parce que pour les plus impatients et pour les plus impatients d'entre vous, je pense quand même que ça peut accrocher un peu. Alors certes, Il y aura toujours de quoi se raccrocher avec notamment le scénario, l'univers, l'exploration, l'aventure avec un grand A quoi. Mais bon, on peut pas enlever que dans les Zelda, il y a aussi une partie puzzle qui est quand même assez conséquente. Et donc si tous les puzzles passent par ce truc là, ou du moins si une bonne partie des puzzles passent par ce genre de mécanique là, et si en plus vous sentez que manette en main vous n'avez pas forcément la super confiance pour faire les objets, ça peut être compliqué. Après sachez-le quand même, il y a de grandes chances pour que une fois la progression bien entamée, on ait des outils qui simplifient un petit peu cette manière de concevoir les choses et de construire. Mais il n'empêche qu'il faudra quand même le faire au début, quoi. Donc à vous de voir un peu tout ça, mais je préfère encore une fois vous donner tous les éléments, et comme ça, vous faites votre popote et vous voyez si ce jeu peut vous plaire ou non. Moi, mon but, c'est d'être le plus complet possible, et puis de vous informer au mieux. Et j'espère qu'avec cette vidéo, ça a été le cas. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi tout ça, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire encore une fois, je serai toujours assez curieux de voir un peu vos retours. Et puis je vous souhaite bon jeu et je vous dis à très vite. Allez, bye!